Lizzie présente Les Essais de Michel Seigneur de Montaigne. Lecture pour le temps présent, établie par Bernard Combeau, avec la collaboration de Nina Mouegler, d'après l'édition de 1595. Sélection de textes par Jean-Yves Tadier, lu par Didier Sandre. Livre 1. Nos affections s'emportent au-delà de nous. Ce qui accuse les hommes d'aller toujours béant après les choses futures et nous apprenne à nous saisir des biens présents et nous rasseoir en eux parce qu'ils considèrent que nous n'avons aucune prise sur ce qui est à venir, et même bien moins que nous n'en avons sur ce qui est passé, touche à la plus commune des erreurs humaines. Si l'on ose appeler erreur une chose à quoi nature même nous achemine pour que nous servions à la continuation son ouvrage en nous imprimant, comme bien d'autres, cette idée fausse, plus jalouse de notre action que de notre science. Nous ne sommes jamais chez nous. Nous sommes toujours au-delà. La crainte, le désir, l'espérance nous élance vers l'avenir et nous dérobe le sentiment et la considération de ce qui est pour nous amuser à ce qui sera, voire quand nous ne serons plus. Bien misérable est l'esprit affligé du futur. Calamitosus est, animus futuri anxius. Ce grand précepte est souvent allégué dans Platon. Fais ton fait et connais-toi. Chacun de ces deux membres enveloppe globalement tout notre devoir et semblablement enveloppe son compagnon. Qui aurait à faire son fait, verrait que sa première leçon, c'est de connaître ce qu'il est et ce qui lui est propre. Et qui se connaît, ne prend plus l'étranger pour le sien. Il s'aime et se cultive avant toute autre chose. Refuse les occupations superflues comme les pensées et les propositions inutiles. Tout comme la folie, quand bien même on lui octroiera ce qu'elle désire, ne sera jamais contente. De même, la sagesse se contente de ce qui est présent et ne se déplaît jamais de soi. Épicure dispense son sage de la prévoyance et du souci de l'avenir. Parmi les lois qui regardent les trépassés, celle-ci me semble vraiment solide qui oblige les actions des princes à être examinées après leur mort. Ils sont les compagnons, sinon les maîtres des lois. Ce que la justice n'a pu sur leur tête, c'est raison qu'elle le puisse sur leur réputation et sur les biens de leurs successeurs, chose que souvent nous préférons à la vie. C'est un usage qui apporte des avantages singuliers aux nations où elle est observée, et désirable par tous les bons princes qui ont à se plaindre qu'on traite la mémoire des méchants comme la leur. Nous devons sujétion et obéissance également à tous les rois, car elles regardent leur office, mais l'estime, non plus que l'affection, nous ne la devons qu'à leur valeur. Accordons à l'ordre politique de les supporter patiemment, même s'ils sont indignes, de sceller leurs vices, d'aider par nos louanges à leurs actions indifférentes aussi longtemps que leur autorité a besoin de notre soutien. Mais une fois fini notre commerce avec eux, ce n'est pas raison de refuser à la justice et à notre liberté l'expression de nos vrais sentiments, et en particulier de refuser au bon sujet la gloire d'avoir respectueusement et fidèlement servi un maître, dont les imperfections leur étaient pourtant si bien connues, et de frustrer ainsi la postérité d'un exemple aussi utile. Quant à ceux qui, par respect de quelque obligation personnelle, épousent iniquement la mémoire d'un prince blâmable, il substitue une justice privée à la justice publique. Tite-Live dit vrai que le langage des hommes nourri sous la royauté est toujours plein de vaines démonstrations et de faux témoignages, chacun élevant indifféremment son roi à l'extrême degré de la valeur et de la grandeur souveraine. On peut réprouver la magnanimité de ces deux soldats qui répondirent à Néron, à sa barbe, l'un auquel il demandait pourquoi il lui voulait du mal. « Je t'aimais quand tu le valais. » Mais depuis que tu es devenu parricide, boute-feu, battleur, cocher, je te hais comme tu le mérites. À l'autre, pourquoi il voulait le tuer? Parce que je ne trouve d'autre remède à tes continuels méfaits. mais les témoignages publics et universels qui ont été rendus après sa mort, et qui le seront à tout jamais sur lui comme sur tous les méchants tels que lui, à propos de ses comportements tyranniques et vils, quel homme saint d'entendement peut les réprouver ? Il me déplaît que dans une aussi sainte constitution que celle de Lacédémone, se fût mêlée une aussi fine cérémonie pour la mort de ses rois. Tous les peuples confédérés et voisins, et tous les ilotes, hommes, femmes, pêle-mêle, s'entaillaient alors le front pour témoigner de leur deuil et disaient dans leurs cris et leurs lamentations que celui-là, quel qu'il eût été, était le meilleur roi de tous les leurs, attribuant au rang l'éloge dû au mérite et rejetant ce qui appartient au premier mérite à l'ultime et dernier rang. Aristote, qui brasse toutes choses, s'interroge sur ce mot de Solon que nul avant de mourir ne peut être dit heureux et se demande si celui-là même qui a vécu et qui est mort à souhait peut être dit heureux si sa renommée va mal ou si sa postérité est misérable. Pendant que nous nous remuons, nous nous portons par anticipation où il nous plaît, mais une fois hors de l'être, nous n'avons aucune communication avec ce qui est. Et il serait meilleur de dire à Solon que jamais homme n'est donc heureux, puisqu'il ne l'est qu'après qu'il n'est plus.